Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous allez écouter C'est dans l'air l'intégrale, un podcast de France Télévisions. À tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans C'est dans l'air. C'est un bras de fer qui se joue pour l'instant dans les salons feutrés de l'Élysée. Emmanuel Macron et Bruno Le Maire sont passés des désaccords aux vives tensions. En cause, la feuille de route pour trouver les 30 milliards qui manquent au budget jusqu'à l'an prochain. Économie, hausse des recettes, réforme, chacun ses propositions, chacun ses pistes. Les oppositions laissent planer désormais la menace d'une motion de censure. Les prétendants comme Édouard Philippe font la leçon sur le sérieux budgétaire et le président lui aurait piqué une grosse colère, appelant en coulisses à la fin de la foire à la saucisse. Alors pourquoi cette montée en pression entre Bercy et l'Élysée? Quelles sont réellement les pistes d'économie, de recettes? Pourquoi parle-t-on de nouveau dans le débat public de la dissolution? Dette, Macron, Le Maire, le torchon brûle. C'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Jérôme Jaffray, vous êtes politologue, chercheur associé au CEVIPOF. Nathalie Saint-Cricq, vous êtes éditorialiste politique à France Télévisions. Je rappelle votre livre, L'ombre d'un traître aux éditions de l'Observatoire. Astrid de Villene est avec nous. Vous êtes chef du service politique du Huffington Post. Oui, c'est ça, HuffPost, on dit comme ça maintenant. Citons votre enquête publiée en début d'année, comment et pourquoi la politique française s'est démonétisée. Et puis vous êtes aussi productrice et animatrice de Sens Politique sur France Culture. Enfin, Marc Fiorentino, vous êtes spécialiste des marchés financiers. Vous êtes cofondateur de Meilleur Taux Placement, je rappelle, le guide pour sauver votre retraite publié chez Robert Laffont. Bonsoir à tous les quatre.
Bonsoir.
Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je me tourne vers vous, Marc Fiorentino. La présentation demain de la trajectoire budgétaire, c'est un moment important ?
C'est un moment important parce qu'on est dans une impasse. C'est un moment important parce que la situation, elle n'est pas catastrophique. Malheureusement, j'ai envie de dire, elle n'est pas catastrophique parce que si elle était catastrophique, on prendrait des mesures qui sont nécessaires. Le problème, c'est qu'on est dans une situation qui est un peu paradoxale, où la situation est grave, mais on bénéficie de la protection de l'Allemagne et de la protection de l'Europe, et donc on continue à emprunter, parce que c'est ça le nerf de la guerre. Hein. C'est le taux auquel on emprunte et on finance la dette française. Et on emprunte à un taux qui est totalement délirant, c'est-à-dire 2,8%, juste sans rentrer dans les détails, et qui est un taux d'un très bon élève. Or, on est un cancre, compte tenu...
Donc, tout va bien.
Oui, alors, c'est exactement ça. Oui. Le problème, il est là, c'est que tout va bien parce que, un, l'Allemagne a besoin de nous, l'Europe ne peut pas nous taper sur les doigts, et donc on n'est pas dans la situation dans laquelle se sont trouvés les quatre pays qui ont redressé la barre, c'est-à-dire l'Espagne, l'Italie, la Grèce et le Portugal. Il y avait crise de l'euro, faillite, et donc on leur a imposé des mesures qui étaient des mesures strictes. Nous, on bénéficie, on est un peu le passager clandestin de l'Allemagne et de l'Europe.
Mais quelle est l'étape qui a lieu demain? Quand on dit présentation de la trajectoire budgétaire, ça veut dire qu'on dit à nos voisins européens comment est-ce qu'on
c'est
va faire com. Pour...
C'est-à-dire, on est dans la com. C'est-à-dire on essaye de montrer aux professeurs qu'au prochain devoir, on va bosser et qu'on fera mieux. Et puis on va faire la même copie, puisque l'élément essentiel, vous allez tout comprendre, l'élément essentiel de toutes les prévisions, c'est la prévision de croissance. Et les prévisions de croissance, elles sont toujours surestimées par les gouvernements qui les révisent à la dernière minute. Donc à partir du moment, si je vous dis l'année prochaine on fera 1,5% de croissance, ben je vais sortir des chiffres qui seront pas trop affolants. Mais la réalité, c'est qu'on va pas faire cette croissance-là. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de communiquer aux Allemands pour qu'ils ne s'énervent pas.
D'accord. Et aux agences de notation.
Et à l'Europe. Et les agences de notation, à mon avis, c'est trop tard.
Ah bon.
C'est-à-dire que les agences de notation, et je l'appelle de mes voeux, hein. C'est-à-dire qu'il faut que la note de la France soit dégradée pour qu'on puisse prendre les véritables mesures.
Astrid de Villene, on voit bien que c'était plus du tout un sujet, hein, les finances publiques, on n'en parlait plus du tout. Et là, depuis un mois, on sent bien cette montée en tension. On va beaucoup en parler ce soir pour ce qui se passe entre Bercy et l'Élysée. Mais si on ne parle que du président de la République, on sent que ce sujet l'agace profondément. Je le disais avec cette petite phrase qui a fuité sur la foire à la saucisse. Il a appelé ses troupes au calme parce que, évidemment, il y a beaucoup de tensions, y compris dans sa majorité, dans son gouvernement.
Oui, et il n'y a pas du tout d'apaisement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de événements qui viennent se superposer les uns aux autres sur une situation qui est quand même très critique. C'est-à-dire que les députés ont voté, enfin n'ont pas voté puisque ça a été un 49-3, mais en tout cas, le gouvernement a présenté un budget qui était fondé sur de mauvaises prévisions. Mauvaises prévisions de croissance et mauvaises prévisions de déficit. Là, on est à 5,5, c'est énorme, c'est pas arrivé depuis très longtemps, donc tout le monde s'affole. Et c'est vrai qu'on a on va en parler, un ministre de l'économie qui, dans le même temps, sort un livre pour transformer l'État-providence, fait des propositions. Donc ça, ça exaspère l'Élysée. Mais surtout, on a ces 10 milliards d'euros qui donc sont annoncés par le gouvernement pour tenter de rétablir la situation cette année, alors même qu'il y a eu un budget voté quelques mois auparavant.
Et ça, c'est une goutte d'eau.
Et c'est une goutte d'eau parce que dès le budget 2025, il faudrait en rajouter encore des milliards. Donc c'est vrai que là, il y a une incompréhension presque démocratique et des tensions aussi au Parlement, parce qu'il y a eu aussi ce petit débat du est-ce qu'on fait un correctif budgétaire, un collectif budgétaire, un projet de loi de finances rectificatif, et l'Élysée n'en veut pas. Et c'est vrai que les parlementaires qui ont déjà eu à subir un 49-3 se disent mais là, en fait, à quoi on sert pour des sommes qui sont énormes déjà, 10 milliards d'euros. Hein. Moi, j'aime bien donner un exemple de chiffre pour qu'on s'y repère. Le ministère des Droits des Femmes, les féministes réclament 1 milliard d'euros par an qu'elles n'ont pas. Donc là, on est juste sur 10 milliards de baisse de crédit. Donc c'est quand même conséquent. Sans vote, sans concertation.
Avec cette idée, et on va revenir sur cette histoire de collectif budgétaire, parce que derrière, il y a potentiellement une crise politique qui sommeille. On va voir ce qui pourrait éventuellement se passer. Emmanuel Macron a dit que le gouvernement se prend des leçons de sérieux budgétaire matin et soir. Si on commence à péter la confiance, c'est fini. Oui, bah... il estimait qu'il avait la confiance sur la question des finances publiques et de l'économie.
Il estimait qu'il avait une réputation de solidité et d'orthodoxie, d'une certaine manière. Il excusait les dérapages par la période difficile du Covid, le quoi qu'il en coûte et tout ce qui avait été donné. Mais étant un Européen convaincu, il a toujours laissé entendre qu'il serait dans la droite ligne de ce qu'il fallait faire pour l'Europe. Donc, accessoirement, il considère que avant les élections européennes, laisser entendre, et par des personnes qui en parlent, qui sont au sein de son propre camp, qu'en fait, on a tout fait mal et que ça serait bien sympathique de réformer au lieu de faire du rabot et de en gros, de mentir, c'est ce que disait. C'est-à-dire dire, en gros, on va faire tant de croissance, c'est ce que vous disiez. Et puis, au dernier moment, on dit « Ah, zut, on en fait moins, donc on va tout changer ». Qu'il accorde comme dogme la stabilité fiscale, c'est-à-dire, en gros, j'ai dit une bonne fois pour toutes qu'on n'augmenterait pas les impôts. Qu'est-ce que je vais laisser entendre maintenant en disant « On va peut-être faire ci, peut-être faire ça, les super profits, super dividendes, super salaires, super je ne sais pas quoi ». Donc, si vous voulez, quand on voit les élections, la stabilité politique, je rajoute à ça que ce sont les personnes âgées, âgées à partir de 65 ans, qui... dans les sondages, votent le plus pour lui et qui sont les plus inquiets sur la dette, cette espèce d'ambiance n'est pas tellement propice à de bons scores au mois de juin et encore moins de bons résultats au sein d'une majorité où tout le monde commence à penser qu'à 2027, quitte à taper sur son voisin. Voilà, donc c'est peut-être assez logique qu'il se prenne des crises et qu'il soit d'une humeur massacrante au dire de tout son entourage. Chaque jour, c'est un peu pire.
Et avec des sondages qui attestent et qui confirment ce que vous disiez, des sondages dans l'opinion qui marquent...
Il y a un différentiel de 10 à 12 points avec Jordan Bardella et le Rassemblement National.
Jérôme Jaffré, sur ce moment que traverse Emmanuel Macron, les tensions avec sa majorité, des tensions avec certains membres de gouvernement et une forme, ce que vous racontez, de fébrilité sur un sujet qui avait un peu disparu des écrans radars.
Ben, si vous voulez, la bataille est partout. C'est ça qui caractérise la période. L'opinion publique est encore à distance, c'est-à-dire que c'est des batailles. Vous parliez de l'Élysée, des salons feutrés de l'Élysée. C'est pas une bataille encore ouverte pour l'opinion publique, mais pour tous ceux qui suivent la politique.
Elle a commencé.
C'est une bataille qui a lieu. Parce que moi, je note, si vous voulez, le gouvernement prend des leçons de sérieux budgétaire. Blanc, Macron tapait l'air, les Républicains, qui n'ont pas voté la réforme des retraites, alors que Valérie Pécresse voulait faire 65 ans si elle était élue. Et les Républicains ont saboté la réforme des retraites de Macron, en partie. Il y avait un accord théorique entre Ciotti et Mme Borne, et paf, ils n'ont pas respecté. Le sérieux budgétaire. Donc il attaque LR alors que LR envisage de voter la censure. C'est dire l'ambiance, c'est-à-dire pas du tout des amabilités. La foire à la saucisse. La foire à la saucisse, merveilleuse formule qui dit que chacun apporte sa petite idée.
Pour faire des économies.
Elle vise directement Gabriel Attal. Excusez-moi de le dire, parce que Gabriel Attal est venu à la télévision à propos des impôts, des mesures. Il a dit « j'attends les propositions ». Il a lancé la foire à la saucisse, si je comprends bien. Et donc,
taxer la rente. La vraie foire à la saucisse, taxer la rente.
On va en parler.
Donc ça n'est pas très bon en la matière. Et puis il y a la bataille entre Macron et le maire. Manifestement, si vous voulez, le fait que le maire sorte un livre pour présenter son programme présidentiel, consistant à dire en gros que ce qui a été fait sous Macron, c'est pas ce qu'il faut continuer à faire du tout, il faut faire maintenant tout à fait autrement, et qu'en plus il s'engage fermement, il l'a fait encore aujourd'hui dans les questions d'actualité à l'Assemblée, pour dire en aucun cas d'augmentation d'impôts, c'est-à-dire fermant totalement une voie possible, fait donc une pression sur le président. Le président voulait débarquer Le Maire au dernier remaniement, il avait très sérieusement envisagé de changer, et puis finalement il l'a gardé. Il va s'en mordre les doigts tous les jours.
Eh bien on va en parler de ces deux-là. Le ministre de l'économie doit rendre cette semaine, même demain, pour avis le programme de stabilité au Haut Conseil des finances publiques. Autant dire que l'heure des choix est arrivée. Et en coulisses, le dérapage des comptes crispe sérieusement l'ambiance, on l'a compris, entre le président et notamment le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Les deux hommes défendent une stratégie différente pour faire face au mur de la dette. Aubry Perrault et Christophe Roquet.
C'est ce qu'on appelle un recadrage. Hier, comme chaque lundi, le secrétaire général de l'Élysée réunit les chefs de la majorité pour accorder leur violon. Et notamment sur le sujet brûlant du moment, la dégradation des finances publiques. Et puis soudain, un invité surprise nous raconte Le Figaro. Le président lui-même, visiblement agacé.
Il ne faut pas que ça soit la foire à la saucisse. Il faut le calme des vieilles troupes. Le gouvernement se met dans une situation où il se prend des leçons de sérieux budgétaire matin, midi et soir. Si on commence à péter la confiance, c'est fini.
Un projet de loi pour revoir le budget, pas question pour le président. Et pourtant, la solution était celle privilégiée par Bruno Le Maire. Un pari perdant à 2 mois des européennes, selon le chef de l'État qui s'en prend régulièrement à son ministre de l'économie ces derniers jours.
Bruno, ça fait quand même 7 ans que tu es là.
Le Monde souligne une vive tension entre les deux hommes. L'hebdomadaire Le Point croit même savoir que Macron ne décroche pas quand Le Maire l'appelle. Le président s'impatiente alors qu'il souffle un vent de panique au sommet de l'État. Ces dernières semaines, le ministre de l'économie et le ministre délégué chargé des comptes publics ont annoncé les efforts à venir. 10 milliards d'économies cette année et...
au moins 20 milliards d'euros d'économies supplémentaires pour l'année 2025.
Appelons donc un chat en matière de finances publiques. Le plus dur est devant nous.
Que les Français se rassurent, le gouvernement n'augmentera pas les impôts, promet Bruno Le Maire. Ah bon ? Et pourquoi pas ? Répondent certains dans les rangs de la majorité.
Si nous demandons à nos compatriotes de fournir un effort compte tenu de la situation financière de notre pays, cet effort, il doit être partagé par tous. Est-ce que c'est la taxation des super-profits ? Est-ce que c'est la taxation des super-dividendes ? Est-ce qu'on regarde ce que l'on peut faire sur les fameux rachats d'actions ?
Et pendant que la majorité tâtonne, l'opposition s'engouffre dans la brèche.
Ils ont tellement réduit les recettes de l'État, suppression de l'ISF, baisse des prélèvements sur les dividendes, baisse de l'impôt sur les grandes multinationales, etc. etc. Ils ont tellement réduit les recettes de l'État qu'il n'y a plus de sous.
Mais le gouvernement, lui, regarde plutôt du côté de l'assurance chômage. Le Premier ministre annonce une nouvelle réforme avec un durcissement des règles et le Rassemblement national se moque.
Alors, évidemment, l'air de flûte que vous nous jouez, que vous jouez aux Français, n'a rien d'enchanté pour les Mozart de la finance. Mais coincé par une absence totale de stratégie, c'est le système social qui a été construit par et pour les Français que vous êtes en train de raboter.
Vous qui proposiez 100 milliards d'euros de dépenses en plus dans la dernière campagne présidentielle sans le début d'une idée de financement, vous nous parlez de Mozart de la finance. Avec vous, ça serait le crépuscule des retraites et la dette enchantée. C'est ça le programme du Rassemblement national.
Et si le gouvernement comptait sur l'aide des Républicains traditionnellement très attachés à la réduction des dépenses publiques, c'est raté. La droite rêve plutôt d'une motion de censure.
On n'a jamais vu un écart aussi important entre les chiffres inscrits dans le budget et la réalité. Cet écart, il est de plus de 30 milliards d'euros. Ça veut dire que le gouvernement, plutôt le président de la République, sciemment ont menti aux Français.
Opposants politiques et anciens amis, tout le monde s'en prend au président, y compris son ancien chef.
Il y a des mesures à prendre. Elles auraient dû être prises depuis plusieurs années. J'avais laissé les finances publiques équilibrées. Les comptes sociaux étaient à l'équilibre. Les comptes publics étaient en dessous de 3%. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Pour revenir à l'équilibre et vite, le gouvernement envisagerait de réduire les aides aux entreprises, les dépenses liées aux arrêts de travail ou encore supprimer définitivement le bouclier tarifaire sur le gaz.
Alors, nous allons revenir sur certains points à développer dans ce reportage. D'abord, cette question de Florence. Quelle mouche a piqué Bruno Le Maire pour qu'il joue maintenant le père Fouettard après tant d'années aux commandes de Bercy ?
Oh, c'est assez clair pour répondre rapidement. Il envisage de se présenter en 2027. Il a plein de concurrents, dont Édouard Philippe. Et pour redresser son image, il est obligé de s'ériger en grand chef de l'orthodoxie et de tout mettre sur le dos d'Emmanuel Macron. Donc, il tire la sonnette d'alarme. Il se dit que 3 ans à l'avance, il peut être décollé du bilan de Macron, donc se mettre, comme chacun essaie de se décoller du bilan Macron. Édouard Philippe dit au moins, c'est 3 ans que je suis parti. Bruno Le Maire veut se montrer comme celui qui est responsable pour, évidemment, dans une campagne, ne pas se faire taper par LR en disant, mais c'est vous qui êtes responsable.
Nathalie Saint-Cricq, le président, lui a gentiment rappelé, Bruno, ça fait 7 ans
oui,
que tu es là.
Oui, mais Bruno s'en fiche. Enfin, Bruno continue à faire comme si, lui, il a une stratégie qui est assez claire. C'est comme le disait Jérôme, un livre, cette fois-ci, qui n'est pas un roman, mais qui est un livre, effectivement, pour se montrer dans la stature du présidentiel et de se ficher éperdument de ce que peut dire Emmanuel Macron, qui réagit régulièrement en lui disant en gros tu te fous de ma figure, et lui continue à effectivement à sa stratégie. Tout ça pour un jour dire c'était moi quand c'était bien, quoi qu'il en coûte, mais ça a été moi aussi quand c'était moins bien, mais je suis un vrai, j'ai une stature présidentielle.
C'est crédible de dire ce qu'il a dit au Monde, ça fait 3 ans que j'alerte sur la dette, si on m'avait écouté, ça c'est Bruno Le Maire qui parle, si on m'avait écouté, on serait à 4,9 de déficit, pas à 5,5, Astrid de Villene. Ouais. Ça peut passer ?
Enfin, il est aux manettes. Il est à Bercy.
Il n'a qu'à démissionner.
C'est lui-même.
Je trouvais ça insupportable.
Je crois qu'ils sont tous les deux liés, en fait. Leurs destins sont liés. Ils ont l'un et l'autre besoin, l'un de l'autre. Alors, en effet, on dirait qu'ils sont en concurrence, ce qui est bizarre, alors qu'il n'y a pas de concurrence entre eux, puisqu'Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter en 2027. Mais ce qui est vrai, c'est que depuis, en fait, déjà sous Elisabeth Borne, on sent un Bruno Le Maire, ça fait très longtemps qu'il est à Bercy, c'est quasiment un record sous la 5e. Mais c'est le record, voilà. Mais on sent qu'il a envie d'élargir son périmètre depuis déjà au moins 1 an. À nous, journalistes, il parle de culture, d'éducation, ça exaspérait déjà Madame Borne à l'époque. Et je crois que l'arrivée de Gabriel Attal, qui, on l'avait dit à l'époque, ringardisait les plus anciens, n'a pas été simple pour eux à encaisser. Mais sauf qu'aujourd'hui, ça donne une sorte de musique qui est dissonante, en fait, au sommet de l'État, alors qu'on est dans une situation grave. Donc moi, je crois qu'ils sont en train de se desservir les uns les autres, en réalité, politiquement.
Marc Fiorentino, c'est audible quand on est à Bercy. Est-ce qu'on a totalement les manettes sur la politique ?
Totalement les manettes. Et j'ai envie de dire que Bruno Le Maire pourrait dire à Emmanuel Macron, Emmanuel, tu étais là depuis 7 ans. Oui. C'est-à-dire qu'ils sont les deux totalement responsables. Ouais. Donc essayer de dire, c'est plutôt de la faute du ministre de l'économie, ils sont vraiment les deux. Alors il faut expliquer pourquoi, vous disiez tout à l'heure, pourquoi on se retrouve dans cette situation aujourd'hui. Oui. De tension. Il y a plusieurs choses. D'abord, quand Emmanuel Macron va à l'étranger, ce qu'il touche beaucoup, la presse allemande le descend sur toute la problématique budgétaire et la gestion. C'est un sujet de rigolade dans la presse allemande et dans la presse sérieuse et dans la presse économique. Donc, il faut voir les éditoriaux, ils sont vraiment incendiaires. Donc, ça
fait des années qu'ils se moquent de la France
non,
et des
là, c'est
publiques.
Vraiment. Là, on a des chiffres.
D'accord.
Vous disiez tout à l'heure 5,5%. Il faut comprendre 5,5%. Quand on dit 3 ou 5,5%, bon, on se dit, ça fait quand même une petite centaine de milliards de différence d'euros. C'est pas 10, hein, c'est 84 milliards d'euros de différence. C'est énorme. Et le deuxième élément qui fait que ça s'est déclenché maintenant, c'est qu'en fait, c'est la fin de l'argent magique. L'argent magique, c'était les taux d'intérêt à zéro. Tant que les taux d'intérêt étaient à zéro, Emmanuel Macron a fait semblant de ne pas regarder ce qui se passait. Mais quand on donne une prime, par exemple, pour l'essence, pour maintenir le prix à tout le monde, et que ça coûte 30 milliards d'euros, il ne peut pas ne pas savoir que quand il décide avec son ministre de l'économie de me donner, alors que je n'en ai pas besoin, un prix de l'essence qui est inférieur à 2 euros, il est en train de dilapider l'argent de l'État. Il ne peut pas revenir, on n'est pas comme dans le financement des campagnes, on ne peut pas revenir en disant « Ah, mais je n'étais pas au courant, ce n'est pas moi qui ai organisé les meetings. » C'est juste pas possible.
Est-ce qu'il y a une différence, Jérôme Jaffray, de stratégie face à ce mur de la dette et cette nouvelle réalité économique entre ce que dit Bruno Le Maire et ce que dit le président de la République ? Déjà, en termes, peut-être pas en termes économiques, on pourra en reparler tout à l'heure avec Marc Fiorentino, mais en termes de stratégie, est-ce qu'il faut un collectif budgétaire avant les élections ? Pourquoi est-ce que ça s'est tendu aussi sur la manière, sur la méthode ?
Eh bien, en partie d'abord parce que ce gouvernement est menacé d'être renversé, parlons clair.
C'est ça le sujet ? Oui.
Il est menacé d'être renversé par une motion de censure. Je rappelle que la motion de censure, si elle est votée, l'article 50 de la Constitution dit que le gouvernement doit présenter sa démission au président de la République. Donc il n'y a plus de gouvernement et il est exclu évidemment de renommer le même gouvernement Attal, parce qu'à ce moment-là, le Parlement voterait une deuxième motion de censure. Donc, ça change tout. Deuxièmement, à partir de là, si vous voulez, le président de la République, il a tranché. C'est quand même lui qui a le pouvoir de trancher.
Oui.
Et Bruno Le Maire voulait un collectif budgétaire.
C'est quoi un collectif budgétaire ?
C'est la loi rectificative du budget qui aurait été examinée cet été, qui aurait probablement entraîné une motion de censure. Et Emmanuel Macron a pensé qu'il n'y avait peut-être pas d'urgence à aller vers une motion de censure. Alors que ça ne gêne pas du tout Bruno Le Maire, apparemment, dans sa stratégie. Parce que s'il n'y a plus de gouvernement...
Il y a des élections derrière, il y a une dissolution.
Alors là, vous allez vite en
besoin. Ah pardon, pardon.
Sur Bruno Le Maire. C'est Bruno Le Maire, lui, à ce moment-là, il quitte le gouvernement en disant « ce que j'ai proposé ne se fait pas ». Dans ces conditions, je m'en vais, mais du coup, il n'a pas démissionné. Parce que démissionner brutalement ou être démissionné, ça n'est pas dans sa stratégie. Être démissionné, à la limite, il est victime. Mais démissionner lui-même, alors il est déjà un peu un traître pour les Républicains, il devient un traître pour les macronistes. C'est beaucoup, un double traître. Là, ça n'est plus l'ombre d'un traître, c'est un vrai traître, dirais-je.
Allusion au livre de Nathalie Saint-Cricq.
Voilà. Alors, maintenant, vous me dites, qu'est-ce qui se passe, élection par élection, si une motion de censure...
On entend de nouveau, pardonnez-moi, je vous coupe, on entend de nouveau parler de dissolution.
D'abord, une censure, ça ne s'est produit qu'une seule fois sous la Ve République. Il faut quand même le rappeler à nos téléspectateurs, c'est quelque chose qui n'arrive jamais sous la Ve. Le seul précédent, tenez-vous bien, 62 ans en arrière.
D'accord.
C'est octobre 1962, le général de Gaulle veut faire un référendum sur l'élection du président de la République au suffrage universel. Les députés estiment que ce n'est pas conforme à la Constitution. Article 11, article 89, je passe là-dessus. La censure est votée, le gouvernement Pompidou est renversé. Et le général de Gaulle alors maintient Pompidou pour expédier les affaires courantes et dissout l'Assemblée nationale pour faire des élections. Il va gagner le référendum, il va gagner les élections. Sinon, la Ve République et le général, c'était terminé. C'était la fin de cette période. Là, donc, la censure, logiquement, ce sont des élections derrière. Mais dans la période actuelle, des élections, c'est pas évident. Donc la stratégie du président, c'est peut-être de chercher le moyen d'éviter d'aller jusqu'à la censure et de trouver un chemin pour éviter ça. Parce que c'est difficile de ne pas faire des élections derrière. Alors on dit parfois, ils pourraient trouver un accord avec LR. Mais enfin, les LR auraient voté la censure et derrière, on leur dirait ce que vous voulez rentrer au gouvernement.
Ce que j'essaie de comprendre, Jérôme Jaffré, c'est que de toute façon, à un moment donné, quand on vote, quand on prépare un budget, il faut l'emmener devant le Parlement européen. Ce moment de vérité, il va avoir lieu avant les européennes ou après, à la rentrée ?
Alors,
est-ce que c'est le cas ?
Il n'aura probablement pas lieu avant les européennes.
D'accord.
Voilà. Et donc, et personne finalement n'a intérêt à aller voter la censure avant les européennes.
Mais après ?
Mais après, en revanche, tout est ouvert.
On a vu, grâce à Cécile Cornudet, qui vient souvent sur ce plateau, qui fait son édito pour demain, et qui révèle que dimanche soir, Bruno Le Maire a lancé une consultation pour proposer un budget rectificatif, ce dont on vient de parler, contre l'avis du président. Ça s'est passé lundi soir.
Oui, c'est-à-dire qu'il maintient. C'est-à-dire que le chef de l'État lui explique pour les raisons précitées que ce n'est pas le moment et que de toute façon, on ne va pas dire qu'on s'est trompé tout de suite, du genre on rectifie, c'est en se battant la coulpe, notamment dans cette période-là, et puis avant les JO dissoudre, enfin, on recomposer. Tout ça serait un cirque. Bon, septembre, nouveau budget, nouveau 49-3, possibilité de motion de censure, mais d'ici là, on peut discuter.
D'accord.
Et Bruno Le Maire essaie de convaincre en envoyant. Alors aujourd'hui, il a dit que c'était son cabinet. Alors c'est toujours le cabinet qui font des erreurs. C'est-à-dire qu'en gros,
sympa, ça,
ont des choses, ont des initiatives indépendamment de leur chef. Et donc ils ont envoyé un mail en disant ça serait quand même pas mal. Faut réfléchir à ce projet de loi de finances rectificative. Donc évidemment, Emmanuel Macron, dans les 12 secondes qui a suivi le moment où les gens l'ont reçu, ils l'ont forwardé à Gabriel Attal et à Emmanuel Macron. Comme ça a été la fête. Et mais Bruno Le Maire a une forte tête, lui, et continue régulièrement de faire comme s'il en était. C'est-à-dire que de ce qu'on nous raconte, je parle sous votre contrôle, Emmanuel Macron s'énerve, Emmanuel Macron le prend en face, l'autre dit « ouais », et il continue. C'est-à-dire qu'il est extrêmement entêté et il se fiche. Comment dire, c'est effectivement, il est à Bercy depuis longtemps.
Il est dans une démarche personnelle ?
Ah bah, ils sont tous dans une démarche personnelle. Excusez-moi, le danger de ce deuxième quinquennat avec pas d'Emmanuel Macron derrière, c'est que Yael Braun-Pivet dans une démarche personnelle en proposant de nouvelles taxes, que Bruno Le Maire est dans une démarche personnelle, que Gérald Darmanin est dans une démarche personnelle, que Gabriel Attal est dans une démarche personnelle, que Édouard Philippe est dans une démarche personnelle. Il n'y a que des démarches personnelles pour essayer de voir la suite, qui est déjà anticipée. Donc ça donne une solidarité extrêmement faible et un degré d'obéissance au chef de l'État qui tend vers l'infini en moins...
Dans le contexte que vous avez précédemment exposé, c'est-à-dire à un moment donné où il faudrait être rassemblé et trouver des mesures.
C'est bizarre, oui. Parce ça peut être perdant-perdant, pour le coup, pour tout le monde.
Et il faut comprendre que, de toute façon, il ne peut pas rester Bruno Le Maire. C'est ça qu'il faut comprendre.
C'est-à-dire, pourquoi ?
Parce que quand on présente une copie comme celle qu'on vient de présenter avec 5,5% de déficit, qu'on est là depuis 7 ans, c'est le fusible et le responsable. Ce n'est pas que le fusible.
Il dit que ce n'est pas de ma faute. Il dit, si on m'avait écouté, on n'en serait pas là.
Non, mais c'est juste impossible de dire ça. C'est juste incroyable. De la même façon que c'est totalement impossible d'avoir Emmanuel Macron qui dit c'est de la faute de Bruno Le Maire. Enfin, il faut qu'au moins il prenne leurs responsabilités. Donc, la question, à mon avis, c'est... Alors, moi, je ne suis pas du tout dans la politique, mais évidemment, je pense que lui se savait ou se sait, à partir du moment où il présente le 5,5%, qui est un chiffre traumatisant, notamment pour l'Europe, peut-être pas pour les Français, mais...
Pour l'Europe.
Alors, quand je dis pas pour les Français, et c'est
qui commencent à être inquiets.
Je vais vous dire comment ils sont inquiets avec le taux d'épargne. On est à un taux d'épargne record. Et ça, c'est l'indication. C'est pas la peine de faire un sondage. Quand on est à 18% de taux d'épargne, qui est un record hors période Covid, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éléments, il n'y a pas de pandémie, il n'y a pas de crise, la croissance...
Elle vient de là, l'inquiétude.
L'embauche est plutôt bonne, le chômage se tient. Si vous avez 18% d'épargne, c'est que le Français se dit, globalement, on ne paiera pas ma retraite. On va me raboter mon assurance chômage et on va raboter toutes les mesures sociales. Donc, je dois mettre plus d'argent de côté. C'est un vote de défiance par l'argent qui est spectaculaire.
Et je parle sous votre contrôle, Marc Fiorentino. Tout ça est évidemment très mauvais pour l'activité économique.
Tout ça est très mauvais pour l'activité
économique. Pour la consommation.
Absolument. Il faut savoir que là aussi, c'est l'explication de notre malaise actuel. C'est qu'on ne sait faire de la croissance... que par le crédit. C'est-à-dire la façon, parce qu'on est en train de pavaner en disant l'Allemagne est à zéro et nous on est à 1%. Oui, mais le 1% de croissance, il nous a coûté 5,5% de déficit. En Allemagne, ils ont une dette qui a 65% de leur PIB et ils sont en surplus budgétaire. Donc eux, ils ont fait un choix qui est draconien, qui est de dire on ne dépense pas. Nous, on a fait l'autre choix qui est de dire on s'achète de la croissance à crédit à n'importe quel prix.
Astrid Epilène.
Moi, ce qui me frappe, c'est que depuis 2022 et cette majorité qui n'en est pas une, relative, on sent, je trouve, au plus haut sommet de l'État, un manque d'écoute des oppositions qui proposent des contre-budgets par moment, ou même au sein de la majorité. Le MoDem, allié d'Emmanuel Macron, a proposé, par exemple, la taxe sur les super-profits, les super-dividendes. Déjà, il y a plus de 2 budgets. À ce moment-là, on se souvient d'un Bruno Le Maire à la rentrée d'été du MEDEF, aux universités d'été du MEDEF, qui disait « Moi, un super-profit, je ne sais pas ce que c'est », avec un air très assuré. Aujourd'hui, à l'Assemblée, il a toujours dit non, on ne va pas augmenter les impôts. En revanche, il a un petit peu lâché sur le rachat d'actions, qui est une proposition de Liotte et aussi du MoDem. Donc, à voir aussi quelles solutions vont-ils utiliser, parce que est-ce que les oppositions ne seront pas en mesure de dire « on vous l'avait proposé déjà il y a 2 ans ». Et puis, j'ajoute une dernière chose, je pense que les Français sont quand même inquiets sur une chose, c'est qu'il y a cette période très, très grave qu'on vit sur la guerre en Ukraine, l'inflation, etc. On a une forme de clivage entre les Français tout en bas qui, eux, sont au centime près au supermarché et les Français tout en haut qui ne voient pas, en réalité, l'inflation, ça ne change pas grand-chose sur leur quotidien. Et ça, ce que François Hollande appelait à ce moment-là peut-être les prémices d'une crise sociale, en tout cas, les inégalités. À l'époque, on disait le président des riches, c'est aussi quelque chose qui colle à la Macronie et qui, à mon avis, sera à mettre à l'ordre du jour à un moment dans ces débats budgétaires.
Et nous allons revenir sur cette discussion et la poursuivre en évoquant les pistes. C'est peut-être la foire à la saucisse, mais tout le monde fait des propositions pour trouver des recettes ou faire des économies. Et le gouvernement avance sur quelques pistes assez concrètes désormais. Je voudrais d'abord que vous voyez ce deuxième reportage. On parlait des parcours individuels. Il est toujours la personnalité politique préférée des Français. Et Édouard Philippe a fait de la rigueur budgétaire et de la réduction des dépenses son marqueur politique, comme on dit. Le maire du Havre qui continue d'organiser ses troupes entre loyauté et liberté vis-à-vis d'Emmanuel Macron rappelle dès qu'il le peut que la France a surtout besoin de grandes réformes. Juliette Perrault, Nicolas Baudry-Dasson.
–
Entre Bruno Le Maire et Édouard Philippe, il y aurait presque un air de famille. Deux hommes, une même ambition présidentielle et un même sujet dont ils se revendiquent spécialistes, la réduction de la dette publique. Derrière la complicité de façade, une petite pique lancée par l'ancien Premier ministre à Bruno Le Maire sur ses annonces de coupes budgétaires.
Soit c'est le rabot, un peu surtout, ça fait mal tout le temps, ça ne produit pas grand-chose d'intelligent. Soit c'est des réformes assez systémiques qui permettent de répondre aux grands problèmes de notre pays. C'est pas plus facile, mais c'est plus intelligent, et à mon avis, c'est la seule solution.
Les deux prétendants à l'Élysée se retrouvent tout de même sur une idée, pas question d'augmenter les impôts des Français. Une ligne rouge pour Édouard Philippe, évoquée encore vendredi dernier à Besançon, devant les cadres de la majorité.
Il faut résister à la tentation de la facilité. Je crois que nous devons rester fidèles à la promesse qui a été formulée par le président de la République en 2017, que nous avons mis en œuvre et qui reste une promesse importante de ne pas agir sur les recettes.
Exercice d'équilibriste d'un ancien Premier ministre qui pose les jalons pour la prochaine élection tout en s'appuyant sur son bilan. Trois années à Matignon et un constat quelques semaines après sa nomination, la situation budgétaire de la France est mauvaise. Pour redresser les comptes, le Premier ministre lance une réforme phare, celle des retraites, qu'il défend en bec et ongles, semaine après semaine.
Nous voulons construire un système solide dans lequel les jeunes générations, nos enfants, auront confiance.
Des centaines de milliers de Français descendent dans la rue, mais qu'importe, Édouard Philippe passe en force. Suspendu à cause de l'épidémie de Covid-19, le projet est repris trois ans plus tard par une certaine Elisabeth Borne. L'ancien Premier ministre, silencieux depuis son départ de Matignon, renoue avec l'exercice médiatique. Après tout, la réforme, c'est un peu lui.
Je vais essayer de dire pourquoi il me semble que cette réforme est nécessaire, pourquoi elle est bonne pour la nation, et pourquoi est-ce que les gens qui se reconnaissent dans ce que je dis depuis très longtemps en matière d'équilibre des comptes doivent prendre en compte la réalité démographique, financière, économique, et pourquoi est-ce qu'il faut faire cette réforme ?
Un équilibre des comptes qu'il juge décisif pour le pays, alors que la dette publique a augmenté de 1 000 milliards d'euros depuis 2017.
Les Français peuvent avoir l'impression que, au fond, nous n'aurons jamais à rembourser la dette. C'est une idée très dangereuse. La dette, ce n'est pas une obsession d'expert comptable. Ce doit être une obsession politique, parce que lorsqu'on la laisse filer, on perd progressivement sa souveraineté.
Des propos qui semblent trouver un écho. Sondage après sondage, l'ancien Premier ministre caracole en tête des personnalités politiques préférées des Français. Mais attention à ne pas se croire déjà arrivé aux portes de l'Élysée. Mercredi dernier, la mairie du Havre a été perquisitionnée dans le cadre d'une enquête du parquet national financier qui vise Édouard Philippe et deux de ses adjointes pour prise illégale d'intérêts, détournement de fonds publics, favoritisme et harcèlement moral.
Jérôme Jaffré, cette question, Édouard Philippe peut-il se dédouaner de sa responsabilité sur la dette ?
Eh ben, c'est tout son talent et tout son art, c'est l'art classique de la politique. Hein. Tout le problème de ceux qui veulent la succession de Macron, et évidemment Édouard Philippe s'inscrit tout à fait dans cette ligne, depuis le jour où il a quitté Matignon, ça remonte à 2020, juillet 2020, donc pratiquement bientôt 4 ans. En la matière, c'est d'arriver... Tout le problème, c'est l'équilibre entre la rupture et la différence. Il n'a aucun intérêt à rompre complètement Édouard Philippe, parce qu'il a, en réalité, il a un petit parti, hein. Ça n'est pas... Et il s'agit de se placer pour succéder à Emmanuel Macron en récupérant l'électorat du bloc central qui a suivi jusque-là Emmanuel Macron. Donc, marquer sa différence, mais ne pas agresser le président de la République, pas faire... Sarkozy a réussi cet exploit avec Chirac.
La rupture.
Mais c'est une performance qui n'est pas toujours aisée à répéter. Et bien évidemment, il y a une compétition directe avec Bruno Le Maire,
oui.
Que votre reportage traduit bien. C'est que pour représenter le bloc central en 2027, c'est la ligne et l'argument de la bonne gestion qui sera l'argument mis en avant. Qui est capable de bien gérer le pays, c'est-à-dire à la fois d'éviter qu'il s'enfonce dans la dette, le déficit et l'appauvrissement du pays, et qu'il fasse les réformes nécessaires pour y parvenir, et au-delà, sur l'éducation, sur ce genre de choses. Donc c'est... qui est capable de bien gérer le pays. Et là, nous avons un match Philippe Le Maire caractérisé et qui fait que chacun avance ses pions. Et c'est pour ça aussi que Le Maire accélère à ce point. C'est pour rester dans cette course-là.
En tout cas, Nathalie Saint-Flic, c'est un sujet qu'il porte depuis son arrivée à Matignon, Édouard Philippe.
Oui. Bien sûr, il le porte, donc il a le mérite de la cohérence. Après, comme le disait Jérôme, entre liberté et loyauté, il doit faire attention. On voyait la tête dans le reportage, la tête de Bruno Le Maire,
oui.
Quand Édouard Philippe lui faisait la leçon, notamment sur l'histoire du rabot. En clair, il accuse Bruno Le Maire de faire des économies en rabotant un peu partout, un milliard par-ci, un milliard par-là, alors que lui dit qu'il faut avoir des priorités et il faut faire des réformes. Il faut réformer sur le fond, autrement on ne s'en sortira pas. Donc il y a effectivement ces deux axes-là, et puis ils ont effectivement également un problème de taille. Pour Bruno Le Maire, c'est quand est-ce que je pars ? Est-ce que je pars ou est-ce que j'attends ? Non, pas qu'on vire. Et si je pars trop tôt, j'ai pas de parti, je suis pas député, je suis rien, j'ai rien, j'ai pas d'argent.
Pas de revenus.
Donc comment on existe jusqu'en 2027 si on va jusqu'en 2027 ? Pour Bruno Le Maire, donc il y a un problème de bon moment pour se décoller suffisamment de Macron tout en rentrant en campagne. Et Édouard Philippe, son problème, c'est à quel moment je passe en seconde ? Parce que pour l'instant, il nous fait une interview dans l'Opinion, une petite apparition quelque part, des meetings, il lance ses petites phrases, et puis il a très bien placé dans l'Opinion. Et il a quand même perdu 10 points depuis plusieurs mois. Donc, il y a un moment donné, on est toujours adoré quand on est parti en France, ou quand on est mort. Lui, il est que parti. Mais quand on revient, il faut gérer l'atterrissage et l'entrée dans l'atmosphère de façon maligne pour effectivement être le loyal à Emmanuel Macron. Parce que je pense que les gens n'aiment pas les traîtres.
Alors.
Mais à côté de ça, être suffisamment différent pour donner envie et être compatible avec DLR qui finalement retrouverait le bon chemin parce qu'ils n'ont pas un candidat crédible.
Alors avant que l'un ne sorte ou que l'autre se lance, il va falloir répondre à nos camarades de Bruxelles et les trouver ces 10 plus 20 milliards qui manquent au budget. Quelles sont les pistes évoquées ? On parlait tout à l'heure de la majorité qui se fait entendre, considérant que certaines réformes qui ont été annoncées sont injustes. Je pense notamment à la réforme de l'assurance chômage, réclamant notamment une taxation des plus aisés pour la partie de l'aile gauche de la majorité. Si on résume les pistes qui sont désormais sur la table.
Moi, j'en ai eu très peu des pistes pour l'instant parce qu'ils attendent en fait le budget de 2025, de d'octobre. Et la motion de censure dont on parlait, en réalité, les Républicains, s'ils veulent la déposer, ils peuvent le faire quand ils le veulent. Hein. On peut faire une motion de censure spontanée. En réalité, ils n'ont pas assez de voix, ils n'ont pas assez de députés en leur sein pour la déposer tout de suite, et surtout, ils préféraient le faire sur un texte. Donc c'est aussi un jeu comme ça de stratégie, mais c'est surtout au budget de 2000, en octobre prochain, que là, les pistes vont se décider.
Mais il y a quand même déjà des pistes de réflexion. Aller sur les crédits d'impôt, essayer de passer au tamis les aides aux entreprises, mettre fin au bouclier tarifaire sur le gaz. On a parlé aussi des économies sur la santé avec les affections longue durée.
Ce qui est intéressant, c'est le programme, on le connaît, en fait. Quand on dit Édouard Philippe et puis même Bruno Le Maire, pas le Bruno Le Maire ministre de l'économie, mais l'autre qui écrit des livres pour critiquer Bruno Le Maire, ministre de l'économie. On connaît le programme, en fait. C'est assez simple. On a demandé à tous ces pays d'Europe du Sud de l'appliquer, nous, la France aussi, quand il y a eu la crise.
C'est quoi le programme, alors ?
Le programme, c'est tout ce que vous avez cité. C'est-à-dire, il y a une dizaine de mesures avec trois réformes majeures. Il y a le millefeuille administratif, on en a parlé 100 fois. Il y a la réforme des retraites, il y a la réduction des dépenses sociales et des dépenses de santé. Enfin, et la liste, elle est connue. C'est-à-dire que vous demandez même à une intelligence artificielle, elle va vous le sortir. C'est le programme des 10 mesures à prendre.
Ils vont faire le budget avec ChatGPT.
Non, mais vous pouvez le faire.
Ah oui.
Je ne vous demande pas, parce qu'aujourd'hui, vous allez chercher tous les budgets d'austérité qui ont été imposés, notamment par la France et par l'Europe, et vous allez sortir 10 mesures. Je n'ai pas dit qu'elles étaient applicables.
Non, parce que bien sûr.
Je dis simplement, vous me dites quelles sont les mesures. On les connaît toutes. Ensuite, le problème qu'on a, c'est que de toute façon, à faire un ensemble de mini-mesurettes, c'est un peu ce que disait Édouard Philippe, c'est-à-dire des petits coups de rabot, ça sert absolument à rien.
Mais parce qu'il faut que ça passe. Il faut que ça passe socialement.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est plus dans cette situation-là. C'est-à-dire qu'on est dans une telle situation d'urgence qu'il faut que quelqu'un, moi je ne suis pas politique, je le répète, ait le courage politique de dire voilà, on est aujourd'hui confronté à une situation. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est un peu aberrant de dire ça, mais le seul élément déclenchant, ça serait une dégradation de la dette. Parce que s'il y a dégradation de la dette, alors on l'a eu et il ne s'est rien passé. Je pense que dans le contexte actuel, de taux d'intérêt actuel, dans le contexte actuel de taux d'intérêt actuel et d'inquiétude des Français qu'on retrouve dans l'épargne des ménages, je pense que ça serait un électrochoc.
Il y a déjà une porte qui vient de se fermer cet après-midi. Il y avait une réunion avec les collectivités locales à Bercy auprès de Bruno Le Maire. Et il y avait un projet de Bruno Le Maire à demander aux collectivités locales de baisser de 0,5 points leurs dépenses. Et les collectivités locales ont répondu non. Non, parce que nous avons largement donné. Donc ce ne sera pas de ce côté-là qu'il faut trouver des économies.
Oui, évidemment, si vous demandez poliment à quelqu'un de baisser ses dépenses, il vous répond « je suis à l'os, c'est totalement impossible, déjà je n'y arrive pas, comment pouvez-vous envisager de ?» Donc, en revanche, par rapport à ce que dit M. Fiorentino, il y a évidemment un certain nombre de conséquences politiques par rapport à ça. La première chose, c'est qu'il y a des élections dans 2 mois. Ce n'est pas un détail. Et ce qui s'annonce pour la majorité, la liste Renaissance, n'est pas excellent. Le risque est même que le toboggan descende à toute allure et qu'elle finisse même beaucoup plus bas encore qu'elle n'est.
Pour comprendre ce que vous dites, on va afficher le sondage, le dernier sondage quotidien IFOP Fiducial qui montre effectivement l'écart entre la liste RN et la liste Renaissance. Je vous laisse poursuivre.
Voilà, il y a un écart qui est effectivement énorme.
Et c'est pas celle-là, mais on va en mettre une autre. Allez-y, pardon. Voilà, c'est celle-là.
Et l'hypothèse même qu'entre la deuxième et la troisième liste, les choses se resserrent beaucoup dans les temps à venir, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, ça deviendrait un camouflet total. Donc ça, c'est un élément. Deuxièmement, la dégradation de la note de la France, il me semble que le président de la République, en intervenant comme il l'a fait lundi soir, pour expliquer qu'on ne va pas péter la confiance, etc., et on ne va pas faire de collectif budgétaire, a déjà acté le fait qu'il y aurait la dégradation. Donc il ne fait rien pour l'empêcher, cette dégradation, en considérant que c'est tellement attendu que ça n'est presque plus un événement politique, même si ça remonte
les taux d'intérêt. Sur les marchés, hein.
Ça, c'est manifestement le sentiment que ça donne, c'est renvoyé vers le budget 2025. L'autre problème, c'est que le programme dont parle M. Fiorentino avec l'intelligence artificielle derrière,
je caricature,
il mettrait le pays à feu et à sang.
Mais ça,
parce que le problème est simple, c'est que le pays n'a pas conscience d'être dans la situation d'effondrement que vous décrivez.
Je ne suis pas d'accord
avec
vous.
C'est une différence. Oui, le pays n'en a pas confiance. C'est clair. Dans toutes les enquêtes d'opinion, les gens sont préoccupés, mais pas au point de dire il faut absolument et d'urgence un plan de rigueur, il faut accepter des baisses de prestations dans différents domaines. Non, c'est non. C'est la même réponse que les collectivités locales. Et du coup, le fait, si vous voulez, que nous ayons la protection de l'Allemagne et de l'euro dont vous parliez initialement, compte énormément dans ce fait. Autrefois, nous avions les dévaluations. Et les dévaluations, c'était des signaux d'avertissement qui faisaient que la gauche, par exemple, entre 80 et 83, a dû complètement changer sa politique économique. Elle n'a pas eu le choix. Là, vous n'avez pas de dévaluation, vous n'avez pas ces signaux d'alarme.
Dans la foire aux idées, il y en a un qui veut participer. C'est Jacques Attali. Il faut savoir que la revalorisation automatique des prestations sociales, c'est 400, je passe votre contrôle, 450 milliards. Et Jacques Attali, que j'ai interviewé hier pour C'est dans l'air, a une idée, il faut faire payer les retraités.
C'est une bonne idée, oui.
Les retraités ont un niveau de vie supérieur aux employés du secteur public qui ont eux-mêmes un niveau de vie supérieur aux employés du secteur privé. Alors que normalement, ça devrait être exactement l'inverse. Donc si on voulait vraiment agir dans la structure même de la hiérarchie des revenus, il faudrait
faire
payer les retraités. Il n'est pas normal que les retraités gagnent est un pouvoir d'achat qui augmente plus que ceux dont le revenu est fragile.
Nathalie Saint-Cric, vous disiez avant qu'on entende le sonore, c'est une bonne idée. Vous pensez que socialement, c'est acceptable, électoralement possible?
La dernière fois qu'on a essayé, on a eu des problèmes.
Ah, voilà,
et ça ne s'est pas bien passé. D'abord parce que les retraités votent, et ensuite parce que les retraités aident aussi. Parce que ce n'est pas simplement ça. C'est que les retraités aident les enfants, les petits-enfants, et que les retraités sont des gens qui considèrent que, que c'est assez injuste. Déjà, on est vieux. En plus, quelquefois, on n'a plus de travail. Et l'emploi des seniors en Vanua. Et voilà. Donc, si vous voulez, je pense que c'est explosif socialement. Et d'ailleurs, dans les études, alors je parle aussi sous le contrôle de Jérôme, mais c'est notre grand ami Brice Saint-Thurier qui considérait que dans le mouvement de Raphaël Glucksmann, c'est-à-dire dans l'espèce d'essor qu'il y a de passer de 9 à 10, 12, 11, 12, il y avait les mesures annoncées sur l'assurance chômage, il y avait un vieux souvenir des retraites et un une perspective de serrage de vis sur l'assurance chômage et que c'est quelque chose qui faisait directement vaste communicant avec la gauche en disant, et pour dire qu'effectivement les Français ne sont pas totalement au courant, il faut quand même voir qu'on a vécu pendant 30 ans avec le trou de la sécu qui était devenu une espèce de formule tout le monde a, et que des gens comme Jean-Luc Mélenchon ou Manon Aubry disent qu'en gros le déficit, il suffit de dire que la dette on l'efface, et qu'il y a quand même des gens qui se disent on nous fait le coup de la dette pour augmenter nos impôts, mais finalement, la dette, on n'a qu'à décider qu'on fait table rase du passé, et que comme ça, on s'en sortira. Donc, c'est vrai que pour l'instant, la prise de conscience, sauf chez les plus âgés, elle est quand même, et ce qu'on voit avec le taux d'épargne, qui est quand même l'inquiétude, elle n'est pas massive et généralisée.
Il y a une inquiétude générale sur le déséquilibre des finances publiques, mais dès qu'on commence à rentrer dans le détail des coûts...
L'instabilité, c'est qu'on nous dit le chômage. Alors, il faut quand même rajouter à ça Emmanuel Macron qui dit que ce n'est pas un problème des dépenses trop grandes, c'est un problème de recettes qui ne rentrent pas. Oui. Donc, ça, il est légèrement dans le déni quand même, et que... enfin, légèrement, si je peux me permettre. Et si vous voulez, les gens voient bien qu'il émane trop d'infos de sources différentes qui vont dans tous les sens. C'est-à-dire qu'il y a une espèce, pour le coup, il ne voulait pas Emmanuel Macron d'instabilité fiscale, mais il a une espèce d'instabilité économique où les gens disent on ne sait pas si le chômage ça va s'arranger, on a des prévisions, on ne sait plus, l'inflation ça baisse un peu, mais est-ce que voilà, le chômage, les perspectives. Donc dans ces cas-là, le réflexe logique effectivement, c'est de mettre
l'argent de côté
en disant c'est pas ce qui va nous tomber sur la figure, parce que même Gabriel Attal n'est pas toujours clair, parce qu'il est fermé à une augmentation de certaines taxes. Et puis après, il dit, on peut quand même étudier.
Taxer la rente,
c'est quand même...
Qui est large comme expression.
Ouais. Ça, c'est vraiment le pire qu'on aurait pu dire. C'est-à-dire qu'il n'aurait pas pu dire pire.
C'était dans le programme d'Emmanuel Macron.
Sauf qu'il n'y a pas de définition de la rente. C'est-à-dire qu'il lâche la formule. Alors, on ne sait pas si la rente, c'est la rente des pétroliers, si la rente, c'est la rente des taxis, si la rente, c'est la rente
qui a de
l'assurance vie et un livret A.
Par exemple, dans la foire à la saucisse, pour reprendre l'expression, on entend dans l'aile gauche de la majorité certains qui voudraient taxer exceptionnellement les milliardaires pour, de manière exceptionnelle, vu la période. Mais c'est vrai que c'est un petit peu fourre-tout, tout ça. Et j'ai appris par une indiscrétion que le gouvernement s'attendait à ce que les entreprises augmentent les salaires, puisque Bruno demande, vous savez, c'est quelque chose qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux, Bruno Le Maire demande, etc.
Parce qu'il a beaucoup demandé aux entreprises de le faire.
Sans contrainte, forcément, les résultats ne sont pas forcément attendus. Mais c'est vrai que je pense que le plus difficile pour
eux... Et les entreprises l'ont fait.
Oui, mais pas toutes. Je pense que le plus difficile
pour
eux, en réalité...
La hausse du salaire moyen est supérieure à la hausse de l'inflation.
C'est de ne pas avoir, pendant deux ans, de ne pas avoir pris conscience de ça. Rappelez-vous juste de Valérie Pécresse, pendant la campagne de 2022, qui disait « Emmanuel Macron crame la caisse ». Et à l'époque, c'est vrai que ça ne prenait pas non plus dans l'opinion, cette histoire de dette. Et là, tout le monde se reprend ce mur-là d'un coup.
Et regardez Michael en Seine-et-Marne qui nous dit « Comment s'étonner de la dette publique quand la réponse à chaque crise a été un chèque et non une réforme structurelle ?» C'est vrai qu'on sort d'une période très particulière aussi sur les boucliers tarifaires, sur l'électricité, le gaz, etc. Oui,
vous l'avez dit. À partir du moment où chaque fois qu'on dit, on donne des priorités, l'enseignement, la santé, tout ça, on sait que sur les dépenses sociales, c'est là qu'on dépense le plus, mais on ne va pas commencer à dire que sur la santé, on va baisser. Les retraites, vous le disiez, les Républicains n'ont pas voté, alors qu'on savait très bien que c'était inéluctable. Mais les Français sont paradoxaux aussi, c'est-à-dire que tout passe par... Dès qu'on essaie même les transports, les ambulances, essayer de mettre plusieurs personnes dans les taxis pour économiser, tout le monde hurle.
Elles ne sont pas faciles à faire, ces économies, c'est ça que vous voulez nous dire.
Emmanuel Macron a surtout fait que de dire aujourd'hui on ne veut pas rajouter de l'anxiété à l'anxiété. Alors c'est peut-être se voiler la face, parce qu'il y en a de l'anxiété, forcément, en tout cas dans le pouvoir d'achat, un mot d'ailleurs qu'on n'entend plus, qui est à mon avis important. Mais c'est vraiment la volonté d'enjamber, je pense, les élections.
Alors justement, alors que les ténors de la Macronie, on l'a vu depuis le début de l'émission, se disputent déjà l'héritage en 2027, une nouvelle génération mène le combat qui vient se celui-là, juste là, celui des Européennes au mois de juin, Bardella, 28 ans. Léon Desfontaines, 28 ans. Manon Aubry, 34 ans. Ce ne sont que quelques exemples piochés dans les principales têtes de liste. La France, qui a le plus jeune président, le plus jeune Premier ministre, voit émerger des presque trentenaires bien décidés à peser et en découdre. Juliette Vallon, Maxime Liogier, Léo Seux.
Ça va bien ? À 28 ans, Ambroise Méjean n'en est pas à sa première campagne. Et pour ces élections européennes, il pourrait bien figurer sur la liste de la majorité.
Mais du coup, on se met un peu sur le trottoir et on va peut-être se relayer, parce que là, on est tellement nombreux que je pense qu'on va un peu les submerger.
Le président des jeunes avec Macron, tract en main. Mais jeune ou pas, difficile de convaincre.
Bonjour, pour les élections européennes, pour la majorité présidentielle.
Ah, je ne peux pas voter, désolé.
Bon, bonne journée pour les élections européennes, pour Valérie. Il fallait voter, hein, pour les élections européennes, le 9 juin. Il fallait voter. Vous en attrapez là-bas ? Bonjour, c'est pour les élections européennes. Vous allez voter?
Oui.
Ok, super.
C'est pas pour vous.
Bah ça, c'est pas grave. Pour le 9 juin, Valérie Ayé.
Merci.
Vous la connaissez ou pas?
Pas du tout. Moi, c'est la candidate.
Avec une candidate que personne n'attendait pour représenter la majorité, pas facile de mobiliser. Alors la recette du macronisme, faire connaître de nouveaux profils, est-elle toujours valide?
Moi je pense que ça marche toujours, je pense que ça a permis de faire émerger des talents. Je pense à Gabriel Attal, le Premier ministre, personne ne le connaissait il y a 5 ans. Aujourd'hui il est Premier ministre de la République française, c'est pas rien. Pourtant c'est quelqu'un qui a émergé dans la vie politique grâce à Emmanuel Macron. Bah, c'est pareil pour Valérie Ayé. Et je crois d'ailleurs que toute la classe politique s'est un peu mise à cette mode-là, puisque comme vous le voyez dans les autres partis politiques, il y a aussi des jeunes qui émergent, et c'est tant mieux, c'est une bonne nouvelle.
Une bonne nouvelle? Pourtant, l'adversaire numéro un de la majorité, le candidat du Rassemblement national, est justement l'un de ces jeunes désormais en première ligne. Jordan Bardella, même âge, est très présent sur les réseaux sociaux.
Je prends un Coca Zéro, s'il vous plaît.
Il est hors de question d'abandonner les réseaux sociaux à l'extrême droite ou à l'extrême gauche, parce qu'on parle beaucoup de Bardella, mais ça marche aussi très bien à l'extrême gauche. Moi, je refuse que TikTok soit envahi de contenu qui explique de manière complètement idiote que Jordan Bardella est génial parce qu'il est jeune et qu'il fait des sourires. Enfin, je veux dire, la politique, c'est pas la Star Academy, encore une fois. La politique, c'est de convaincre les jeunes. Et nous, on fait le pari de l'intelligence des jeunes.
Un pari que certains ont poussé encore plus loin. Chez les communistes, c'est Léon Desfontaines, la tête de liste. 28 ans lui aussi. Allez. Dans les pas de Fabien Roussel.
Ça va? Bonjour. Bienvenue chez nous.
L'ancien secrétaire général des jeunes communistes rencontre ce jour-là des pêcheurs du Finistère.
Vous avez un beau pays.
La pêche, un enjeu justement très européen.
Alors, donc le maquereau, il vient d'ici, mais pêché par des bateaux. Et anglais, étrangers, et vous n'avez pas le droit d'en pêcher.
Pour Léon Desfontaines, pas facile d'exister à côté de Fabien Roussel.
Alors ça...
Bien difficile de s'imposer.
Mais la France, c'est donc un ministère. Enfin, c'est les services de l'agriculture. Oui, je sais, il n'y a pas de ministère de la mer. On est la deuxième puissance maritime au monde.
Un candidat comme en apprentissage, un peu discret, à côté de son mentor.
On profite aussi du fait que Fabien Roussel soit député, ancien candidat à l'élection présidentielle. Et donc, on voit que les professionnels, notamment les pêcheurs, ont des questions à lui poser. Moi, je profite d'être là, du coup, avec Fabien Roussel pour pouvoir bénéficier et des échanges, et puis aussi qu'ils puissent nous faire remonter directement leurs préoccupations, notamment, par exemple, sur les quotas de pêche, qui sont en effet un sujet européen.
Allez, avanti.
Entre les deux hommes, une complicité affichée. Dernier encouragement avant de lui laisser la parole.
La réalité, c'est que Jordan Bardella, bah, il ne sait même pas où est le Parlement européen, il ne vient pas. Il ne fait pas ce pourquoi il est payé.
Être jeune en politique, c'est aussi montrer déjà que la politique, elle peut parler de nous, de notre quotidien, et que l'engagement politique peut changer les choses, mais aussi que les vieux débats politiques, comme on les entend depuis, depuis un certain nombre d'années, maintenant des décennies, etc., ça ne suffit pas.
Des candidats toujours plus jeunes, peut-être la solution pour ramener aux urnes cette partie de l'électorat. Lors des dernières élections européennes, les 18-24 ans sont ceux qui se sont le plus abstenus.
Jérôme Jaffré.
Magnifique.
Magnifique.
Magnifique. Hein. Nous plongeons dans le Parti communiste et son histoire.
Mais dans la jeunesse qui s'engage en politique.
Oui, enfin, on a surtout vu Fabien Roussel quand même s'exprimer, si vous me permettez. Mais Léon Desfontaines est un tête de liste sympathique. Yann Brossa, qui était le tête de liste communiste en 2019, a fait une excellente campagne. Il était salué par tout le monde. À l'arrivée, 2,5% des voix. Ça ne suffit pas pour faire des voix.
Mais comment est-ce que vous analysez le fait que, quand on se compare par exemple avec les États-Unis, non mais qu'on voit cette jeunesse-là qui s'engage avec des élections européennes où toutes les têtes de liste sont globalement en dessous de 35 ans, quoi.
Oui, alors c'est que les partis politiques ont tendance à considérer les européennes comme un scrutin secondaire, je dirais franchement, que Bardella ayant fait cette percée, ça a imposé aux autres d'avoir des têtes de liste assez jeunes, que par ailleurs nous avons des têtes de liste qui étaient très souvent déjà têtes de liste en 2019 et qui ont pris de la bouteille. Hein, Glucksmann, Bellamy, Manon Aubry étaient et Bardella, ils étaient tous déjà là en 2019, donc vos jeunes ont pris du poids, ont pris de la bouteille et ont plus d'expérience et plus de talent, c'est la vérité. C'est aussi une manifestation, le fait que ce soit des jeunes, de répondre à la défiance que suscite le personnel politique. Si vous montrez des têtes nouvelles, et Gabriel Attal en est un exemple, hein, quand il est arrivé à Matignon, vous mettez des têtes nouvelles, du coup, vous n'avez rien à le reprocher, une tête nouvelle. Vous dites, bon, bah, c'est sympathique, c'est le renouvellement. Mais je constate que ce sont surtout les vieux, dans les sondages, qui apprécient les jeunes. Par exemple, Attal est très populaire chez les plus âgés et pas populaire chez les jeunes. Donc c'est au fond un moment de bonheur pour les vieux.
Vous retombez sur vos pattes. Allez, cette question, qui fait écho à toute notre discussion depuis le début de l'émission sur les finances publiques. Un jeune, que propose Jordan Bardella en tête des sondages pour réduire le déficit budgétaire?
On n'en parle pas spécialement, et le peu quand il propose,
ils en parlent.
La TVA. Non mais... ils en parlent, mais c'est pas pour eux le problème essentiel, même si récemment, comme c'était dans l'air du temps, ça a été abordé. Mais le mantra de l'augmentation de la TVA est quelque chose dont ils ont considéré que c'était suffisant pour y répondre. Mais là, il fait campagne après campagne. Mmh. Il est sur les européennes pour l'instant. Mais
les européennes, c'est pas un sujet des finances publiques. On n'en parle pas, Marc Fiorentino, pendant les élections. On devrait.
On va dire que c'est pas un sujet populaire, surtout quand on a le programme du Rassemblement national qui ne va pas dans le sens de la réduction des dépenses.
Loin de là. Non, là. Mais de toute façon, lui a dit que c'était un référendum anti-Macron. Donc, il a un ciblage assez clair de sa tonalité de campagne. Et il en dévie assez peu. Mais sur le côté programmatique, il y a plein de failles, il y a plein de choses. On ne comprend pas très bien comment ils vont rebondir sur un programme économique crédible.
Pour boucler la boucle avec notre discussion, avec vous, Astrid de Villene, on a commencé en parlant de Bruxelles, des 3%, des déficits des Allemands. Cette question des finances publiques est un enjeu de ces élections ?
Il faudrait, mais comme l'Ukraine, et pour l'instant, je trouve que c'est encore sous les radars. Mais je pense en fait que cette campagne des urbaines, elle n'a pas vraiment commencé. Oui. C'est dans pas longtemps.
Il y allait là.
Mais oui, mais bon, regardez la tête de liste Renaissance, elle n'est pas totalement bouclée. On parlait d'Edouard Philippe, est-ce qu'il sera sur la liste? On ne le sait pas. Non, je trouve que ça ne prend pas. Alors, est-ce que c'est aussi à cause de cette juniorisation des profils? C'est une question. Moi, je trouve que c'est très sain et très positif qu'il y ait de la jeunesse. Après, il faudra quand même scruter l'abstention des jeunes qui est chaque scrutin après.
Chez nous, spécialement,
plus importante, plus encore plus autres. Aux européennes. Je suis pas sûre que ça vraiment que ça faille la jonction avec la défiance, etc., qui existe. Moi, dans l'enquête que vous avez eu la gentillesse de citer sur la démonétisation de la vie politique française, j'observe au contraire que cette juniorisation repousse aussi des profils plus expérimentés, notamment dans les cabinets ministériels, dont on a besoin. Moi, ça fait 15 ans que je suis la vie politique française, j'ai quand même l'impression que c'est important l'expérience quand même, et au moins la mixité des profils. Avant, c'était l'inverse. Moi, quand je suis arrivée, c'était avant, sous Nicolas Sarkozy, l'Assemblée nationale, c'est vrai que c'était que des anciens, beaucoup d'hommes, des têtes blanches. Bon, c'est vrai que là, Emmanuel Macron a vraiment dépoussiéré avec plus de femmes, avec de la société civile, etc. Et ça, c'est très sain. Mais attention à pas que ça devienne justement quelque chose de réservé aux jeunes.
Ils vont vieillir.
L'amusant, c'est qu'on a le même mouvement dans le monde économique. C'est-à-dire que c'est le côté Startup Nation. Hein. C'est la génération Bitcoin, c'est la génération Startup. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de renouvellement. Même dans des grandes entreprises, c'est pas simplement un phénomène politique, c'est un phénomène économique aussi.
Allez, on y revient à l'économie et à vos questions. Chris, en Haute-Savoie, comment Macron peut-il, entre guillemets, gronder le maire? N'est-ce pas lui qui dirige la politique et donc les finances? Que découvre-t-il, Marc Fiorentino?
C'est absolument incroyable. C'est Macron critique le maire critique le maire, Macron critique le Macron président. Enfin, on ne sait plus où on en est, quoi.
Après 7 ans à Bercy, Bruno Le Maire écrit un livre sur ce qu'il faut faire. J'hallucine, pas vous. C'est Gérard qui nous dit ça.
Surtout que
comment est-ce qu'il l'a justifié? On lui a posé cette question.
Alors déjà, on lui a redemandé encore comment il avait le temps. Donc il a expliqué qu'il écrivait la nuit. Le dimanche.
Vu le livre, quand même, il n'a pas dû mettre trop longtemps.
Non, il est 120 pages, d'accord.
C'est assez léger, quand même.
Okay. C'est léger, puis effectivement, c'est écrit en gros caractère.
Mais comment est-ce qu'il le justifie?
Il le justifie parce que il considère. Mais il ne le justifie pas. Il l'a envoyé 2 jours avant Emmanuel Macron. Je ne réussis pas à savoir ce que c'est que la dédicace, mais je pense que l'effet a été immédiat. Emmanuel Macron a piqué une sorte de crise, encore une fois, là-dessus. Mais il justifie en disant qu'il a alerté. Mais ils sont tous. On a inventé la transgression d'Emmanuel Macron. Il a créé un nouveau genre qui est « je fais ce que je veux ». Quand Emmanuel Macron ne répondait pas à François Hollande qui arrêtait pas de lui dire « faut pas faire ci, faut pas faire ça », il faisait la même chose. Donc il y a un modèle qui est un modèle insolent, mais pas insolent au sens… c'est pas de l'impertinence légère, c'est genre je fais ce que je veux et voilà, et Emmanuel Macron peut toujours s'énerver. Je pense que Gabriel Attal a aussi une forme d'insolence, pas forcément ouverte. Mais que Yael Braun-Pivet a sa forme d'insolence à elle, et qu'il c'est un modèle qui a été lancé en 2017.
Juste, je me mets à la place des acteurs économiques, de ceux qui regardent la vie politique française, qui attendent peut-être une forme de stabilité, on s'en amuse de ces rivalités, mais est-ce que dans ce moment de tension sur les finances publiques, ça peut être une inquiétude supplémentaire que ça dysfonctionne entre le ministre de l'économie, éventuellement le Premier ministre et l'Élysée ?
Non, parce que en fait, on a l'impression que tout ça est un jeu de rôle, qui n'est pas drôle du tout, d'ailleurs, pour l'économie. Et nous, ce qu'on regarde, c'est vraiment la confiance des marchés par rapport à la dette française. Et pour l'instant, c'est ce que vous disiez, tant qu'on a la garantie de l'Allemagne et la garantie de l'Europe, ça se passe pas trop mal, mais la tendance n'est pas bonne.
Je pense qu'on a quand même oublié de dire qu'il y avait, il y a eu depuis les Gilets jaunes, le Covid, la guerre en Ukraine. Donc, que le déficit soit plus important, je pense qu'il ne faut quand même pas l'oublier. Et il ne faut pas non plus en rajouter sur cette crise qui reste quand même d'entourage à entourage. Peut-être que dans une semaine ou deux, on parlera d'autre chose. Pour l'instant, moi, je ne vois pas de scission majeure. Enfin, je ne pense pas que pour l'instant, ce soit qu'il y ait des répercussions majeures
sur l'économie du pays. En tout cas, plus on avance, plus l'OTAN monte. Vous êtes d'accord avec
c'est
ça
sûr, et clairement, Édouard Philippe comme Bruno Le Maire ont leur gestion du temps à gérer. Ils ont 3 ans, ça leur paraît être très long, mais je trouve qu'ils sont, pour l'instant, ils n'utilisent pas la bonne méthode. Soit il faut couper, soit il faut rester et être fidèle. Mais je trouve que là, l'entre-deux, je ne suis pas sûre que ça leur serve, en fait, dans l'opinion.
Il y a un problème de fond entre Macron et Le Maire, quand même, président et ministre de l'économie et des finances. C'est que Bruno Le Maire sort un livre pour dire qu'il faut mettre fin à l'État-providence. Et le remplacer par l'État protecteur. Or, pour percuter l'électorat de plein fouet, dire on arrête l'État-providence, c'est quelque chose qui brise en partie la campagne électorale en vue des européennes. C'est aussi ça qui pose problème. C'est la sortie de ce livre avec ce thème redoutable déstabilise complètement le camp.
Et qui est utilisé par Jordan Bardella. Donc, même dans le cadre de on fait tout pour pas que Marine Le Pen soit une évidence en 2027, c'est effectivement peut-être pas utile que les.
Qu'ils se battent entre eux. Allez, Hervé dans le Morbihan. À seulement quelques semaines de leur conclusion, que pensent les agences de notation en regardant l'affolement général à Bercy ?
Là, ils ont été assez clairs. Ils disent que de toute façon, ce qui est présenté n'est pas crédible. Donc aujourd'hui, on en est là. C'est-à-dire que, et c'est ce que disent les Allemands, et c'est ce que dit l'Europe, c'est-à-dire que ce que vous nous montrez...
Ce qui n'est pas crédible, c'est de dire qu'on sera à 3 en 2027 ?
Oui, c'est ça. Personne n'y croit. Et surtout qu'à partir du moment où on ne l'a jamais fait, on n'a jamais fait ce qu'on a dit qu'on allait faire, et à chaque fois, on a donné des prévisions de croissance qui étaient fausses.
Philippe dit qu'il a réussi, lui, à faire les 3% en 2019.
Oui, il a réussi à le faire en 2019, qui était une bonne année avant le Covid. Vous parliez du Covid tout à l'heure.
Il a réussi.
Et donc aujourd'hui, on est dans un manque de confiance totale.
Corinne de Paris, le gouvernement ne cesse de culpabiliser les Français, mais qu'il montre l'exemple en réduisant ses dépenses.
Ça doit démarrer par ça. Et tout à l'heure, on disait qui touchait. En fait, il faut toucher tout le monde, malheureusement. Mais tout le monde doit mettre la main dans le...
Mais ça ne sera pas suffisant, de toute façon, même s'il y a des choses symboliques. Parce que Édouard Balladur avait baissé les salaires de ses ministres. Ça faisait bien en affichage. Mais ce n'est pas en leur enlevant 3 000 euros par mois qu'on a fait des...
Il n'a pas envie de le faire, ça, Emmanuel Macron. Mais il ne veut pas aller sur ce terrain-là, c'est du symbole.
Mais... mille feuilles, dont Marc parlait tout à l'heure, c'est des choses... Ça, on gagne de l'argent très longtemps après. Sur le coup, on l'annonce, ça fait bien, parce qu'on dit, on a tous en tête qu'il y a 114 fonctionnaires, mais à côté de ça, les gens disent, il n'y a pas assez de services publics. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose qui est d'un maniement assez difficile.
Question d'Henri en Gironde, y aura-t-il des coupes budgétaires ? Quel ministère serait touché ?
Là, il y en a déjà eu avec les 10 milliards annoncés, la culture, l'écologie.
L'enseignement supérieur.
Tout le monde est censé faire des économies. Après, c'est vrai qu'on n'a pas le détail du détail.
On l'aura demain, le détail du détail, c'est ça ?
On aura une partie du détail, on n'aura pas tous les détails. Bon.
Faut-il changer de politique économique ou de ministre de l'économie ?
Ministre de l'économie, je pense que c'est ce qui est en train de se passer. Alors, on ne sait pas qui fait quoi et qui prend la... Il le fait peut-être avant qu'on le vire, mais de toute façon, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je veux dire, avec une copie comme ça, quand vous avez 10 fois 0, il y a un moment, il faut faire redoubler.
Ah oui, vous y allez fort, Marc. Ah ouais. 10 fois 0, ok. Il pourrait, s'il était à ma place, vous dire j'ai été là quand il a fallu faire face à la crise Covid, j'ai bien...
Mais ça, la crise Covid, c'est ce que nous reprochent les Allemands, c'est-à-dire le Covid, il a touché tous les pays.
J'ai été là pour accompagner les Français quand ils avaient besoin de lutter contre l'inflation.
Mais on peut pas. L'idée qu'à partir du moment où il y a un problème, que ce soit une tempête, une inondation, le Covid, la hausse du pétrole, l'État paye, c'est le problème.
Allez, une dernière question. Préparerait-on en douce les Français à une annonce d'une hausse des impôts qu'on nous expliquera ne plus être évitable ?
Elle est inévitable, il faut le dire.
Bon, ce que dit Olivier Marleix aujourd'hui, DLR, on pense que c'est ça qui se cache, mais le gouvernement, pour l'instant, a toujours exclu.
Eh bien, merci à vous tous. On on va en reparler. En tout cas, c'est sûr, on se retrouve demain en direct à 17h30 dans un instant. Un best-of de C'est à vous. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver quand vous le souhaitez, C'est dans l'air, en replay, mais aussi en podcast. Très belle soirée. Merci d'avoir écouté C'est dans l'air. Comme vous le savez, vous pouvez désormais écouter l'intégrale, mais aussi l'invité ou vos questions à nos experts. Tous ces podcasts sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes de streaming audio. Et pour le replay vidéo, c'est sur France.tv, bien évidemment. À bientôt.